Merci d'être avec nous. Je vous propose tout de suite de retrouver notre ami Philippe Deschamps, qui est conférencier pour l'Université Rose-Croix Internationale, que l'on connaît un petit peu puisque l'on a déjà parlé avec lui quelques fois. Mais aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui concerne le karma. Avec cette question, mythe ou réalité? Mais peut-être on va essayer de définir d'abord ce qu'on appelle le karma.
Oh ben le karma, donc c'est un terme sanskrit, hein, karma, c'est un terme sanskrit qui littéralement veut dire la loi de l'acte, la loi du faire, la loi de l'action. En réalité, c'est un terme qui est lié au grand principe universel de la réincarnation. Et historiquement, on voit ce principe apparaître, c'est très ancien, hein, ça remonte à peu près au 8e siècle avant notre ère, dans les Upanishads, donc des textes sacrés, et puis c'est le Bouddha qui va ensuite au 6e siècle avant notre ère, en quelque sorte généraliser ce principe de la réincarnation et du karma, donc de cette loi liée à la réincarnation.
Alors, cette loi dit que si on n'a pas été très bon dans notre vie, on va se réincarner et payer ce qu'on a fait. C'est un peu le cliché qu'on connaît, mais.
Alors, payer, bon, ça c'est peut-être un bien grand mot. Disons que c'est vrai que c'est un. Le karma, donc, c'est étant donné que c'est lié au principe de la réincarnation, le karma, c'est littéralement, c'est une loi de justice impersonnelle. C'est-à-dire qu'on a tendance, nous en Occident, à considérer que le karma, c'est toujours quelque chose de négatif. Pas du tout. En fait, en réalité, c'est ni positif ni négatif. C'est simplement, c'est une loi de rétribution. Hein, c'est en gros, c'est tout ce que je sème, eh bien, je le récolte tôt ou tard, en bien ou en mal. Alors, que ce soit dans cette vie ou dans une autre vie, si l'on admet le principe de la réincarnation. Donc, par exemple, ben, le fait de naître en bonne santé, dans un pays qui m'a permis d'accéder à une certaine éducation, d'avoir une famille aimante, des amis, etc., fait partie du karma. Donc, il ne faut jamais envisager le karma comme quelque chose de toujours de négatif.
D'accord. C'est propre aux religions hindouistes ou alors c'est plus généralisé? Dans quel contexte et dans quelle civilisation ben, on le
Non,
trouve?
c'est pas simplement propre à la religion hindouiste. En fait, c'est un concept qui est généralisé dans toutes les traditions ésotériques, et on voit que ce principe de la loi de compensation, c'est comme ça qu'on l'explique en Occident, en fait, a été lié à toutes les religions, que ce soit bien sûr en Orient, mais que ce soit en Occident, à travers la voie ésotérique du christianisme, dans le judaïsme, à travers la Kabbale, dans le soufisme. Donc toutes les religions, qu'elles soient monothéistes ou tous les grands courants religieux du monde, depuis la nuit des temps, connaissent ce principe de la réincarnation et de ce que l'on appelle le karma.
D'accord. Ça demande tout au long de sa vie, quand on croit au karma, d'agir de façon particulière, de suivre des rituels particuliers pour pouvoir se réincarner ensuite dans quelque chose de plus paisible, peut-être.
Alors déjà, faut bien considérer que quand on parle de réincarnation, il faut absolument pas confondre le principe de la réincarnation avec la métempsychose. La métempsychose, c'est un principe lié à l'hindouisme qui estime qu'il est possible de renaître dans le corps d'un animal ou d'un végétal, etc. C'est absolument à l'encontre du principe de la réincarnation. C'est-à-dire qu'on considère que dans le principe de la réincarnation, il y a toujours une évolution. Mais effectivement, quand on parle du karma, cela signifie que toutes nos pensées, nos paroles, nos actions dans une existence génèrent une compensation, ben, qu'elle soit, disons, positive ou négative. Donc, tant que dans ce principe de la réincarnation et du karma, on considère que tant que l'on n'a pas accédé à la sagesse suprême, si je puis dire, à la perfection sur un plan humain, eh bien, il est nécessaire de revenir, de se réincarner pour apprendre toutes les épreuves de l'existence, les maîtriser et développer ce que l'on appelle dans toutes les traditions les vertus spirituelles de notre âme. Tel est le but de la réincarnation et tel est le but du karma. Donc, le but, en fait, qui est sous-entendu, c'est ce que dans le bouddhisme, ils appellent le nirvana, c'est-à-dire un état de suprême félicité, de sagesse, de développement de la conscience, qui permet justement à un être humain de n'avoir plus besoin de revenir et de se réincarner.
D'accord. Donc l'objectif, c'est de ne plus revenir, quoi, de rester quelque part quelque part, enfin pour nous c'est très très vague, hein, mais quelque part, c'est-à-dire dans
Oui,
une sorte de
alors
paradis
c'est
terrestre
pas
ou...
tout à fait ça. C'est-à-dire que dans les traditions, par exemple, dans les traditions, il y a un objectif qui est sous-tendu chez tous les êtres humains. C'est ce que dans la tradition orientale on appelle les bodhisattvas, et ce que dans la tradition occidentale on appelle les rose-croix. C'est-à-dire des êtres qui ont atteint cet état de libération spirituelle, qui ont atteint, comme je le disais tout à l'heure, une certaine forme de sagesse, la perfection sur le plan humain, et à partir de ce moment-là, ils n'ont plus besoin de se réincarner pour continuer les épreuves sur le plan humain. Alors nous avons tous en nous, tous, hommes ou femmes, quelle que soit notre culture, quelles que soient nos traditions, quelle que soit notre éducation, nous avons tous ce potentiel en nous. Et donc, toutes ces vertus qui sont universelles, par exemple, telles que la sagesse, la bienveillance, la tolérance, la compassion, la patience, etc., qui sont vraiment des vertus universelles, eh bien, on doit les épanouir pleinement pour atteindre cet état. Il semble difficile de pouvoir l'atteindre en une seule existence, d'où ce fameux principe de la réincarnation et ce principe du karma qui lui est lié.
Et donc, est-ce que ça sous-entend qu'il y a des rituels à effectuer ou alors c'est juste une ligne de vie, une philosophie
Non,
de vie?
il n'y a pas de rituel, il n'y a pas de rituel, si vous voulez, puisque telle est votre question, il n'y a pas, sous-entendu, il n'y a pas de rituel religieux ou de rituel spécifique à accomplir pour, entre guillemets, éradiquer notre karma.
Ou en
En
avoir un
fait,
meilleur, quoi.
pour corriger quelque chose, ce qui est important, c'est la façon dont on va agir dans notre existence qui est important. C'est la conscience avec laquelle on agit, la conscience avec laquelle on va avoir un impact sur les autres qui est important. D'ailleurs, quelqu'un qui croit, enfin qui admet le principe de la réincarnation ou du karma, bah, ce qui est mon cas par exemple, on n'est pas là tout le temps pendant notre existence à dire ben, je vais faire ci ou je vais faire pas ça en fonction du karma. Non, en fait, on vit hein, comme tout le monde, mais on essaye, dans la mesure du possible, d'être le plus constructif et le plus positif possible, parce qu'on sait très bien que de toute façon, il n'y a pas de hasard dans l'existence et que tout ce qui peut nous arriver en bien ou en mal est le résultat d'un acte. Et tout est le résultat de certains actes, de certaines pensées. Et ma foi, nous disposons d'un libre arbitre. Et ce libre arbitre est absolument fondamental dans ce principe de la réincarnation et du karma.
D'accord. Adapté à nos civilisations occidentales, ça me rappelle un petit peu ce que disait Kardec quand même, non? Dans les spirites où on doit revenir, s'améliorer, apprendre à chaque fois, à chaque passage sur Terre. N'y a
Bon,
pas de rapport?
c'est pas tout à fait la voie du spiritisme telle que l'a expliqué Kardec, hein. Mais en quelque sorte, ce qui est universel, c'est que l'objectif pour chaque être humain est de s'améliorer, c'est-à-dire de prendre conscience de ses qualités inhérentes, ses qualités spirituelles inhérentes, pour les faire rayonner dans l'existence. Alors, ça, c'est quelque chose de concret, c'est-à-dire que, par exemple, nous, on est des Occidentaux, on vit dans un monde concret, matériel, eh bien, en fonction des talents dont on dispose, on a tous des capacités, on a tous des talents qu'il va falloir développer. En fonction de ça, eh bien, on doit essayer, dans la mesure du possible, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan professionnel, d'être le plus constructif possible. On n'est pas des saints encore, hein, donc on a tous des défauts, évidemment. Mais l'important est de transformer ces défauts en leurs qualités opposées. C'est un travail de longue haleine, c'est un peu ce qu'on appelle, si vous voulez, l'alchimie spirituelle. Donc essayer de transmuter ces défauts dans les qualités opposées, ça c'est un objectif qui fait partie justement de ce principe d'évolution lié à la réincarnation et au karma. Voilà. Nous, on utilise plus d'ailleurs en Occident le terme de loi de compensation, hein. Tout ce que je sème, je le récolte en bien ou en mal. C'est plutôt ça la loi du karma. Donc ce principe du libre arbitre est très important. Ce principe d'être constructif dans l'existence, c'est également très important. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est pas parce qu'on adhère à ces idées qu'on est toujours en train de penser, par rapport à la loi de la réincarnation ou la loi du karma.
D'accord. L'objectif, c'est quand même de toujours faire attention à ce qu'on fait, quoi.
Ben,
être dans la bonne ligne, quoi.
bon, de toute façon, même si on n'adhère pas à l'idée de la réincarnation ou du karma, oui, c'est quand même l'objectif dans l'existence, c'est de toujours faire attention non seulement à ce que l'on fait, mais donc à ce que l'on pense aussi, mais aussi à ce que l'on dit, parce que les trois, les actes, les pensées et les paroles ont vraiment un impact très important. D'ailleurs, en Occident, on a l'impression souvent que les pensées n'ont pas véritablement d'effet. Ben si, la pensée a un effet extrêmement puissant, souvent presque autant qu'une parole ou qu'un acte. Donc effectivement, avant de faire quelque chose, avant d'avoir un rapport avec autrui ou de développer un acte ou une activité quelconque dans la société, dans ce qui nous entoure, il faut toujours réfléchir à ce que l'on fait et se dire, ma foi, est-ce que la façon dont j'agis, la façon dont je parle, la façon dont je pense, est-ce que c'est quelque chose de constructif? Est-ce que je vais amener quelque chose de bien dans tel ou tel domaine, hein? Parce que si consciemment on agit de façon négative ou si consciemment on fait souffrir, là effectivement il y a ce qu'on appelle la loi de compensation, c'est ce que en Orient on appelle la loi du karma.
D'accord. Ce que je fais, ce que je dis, ce que je pense a donc une incidence sur mon avenir, sur ce que je vais
Absolument,
devenir, ce que je vais
absolument.
faire.
C'est ce qu'on appelle la loi de rétribution, la loi de rétribution karmique. Il ne faut pas voir quelque chose de bien ou de mal derrière. C'est ce que Platon appelait la loi de justice universelle. Cette loi est impersonnelle, en fait, hein. Bah oui, en fonction de ce que je fais, en fonction de ce que je dis, je vais avoir une réponse. Et ça s'implique dans tous les domaines, qu'ils soient physiques, qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient psychologiques ou spirituels.
C'est ça se rapproche de la logique, hein, de toute façon. Ce que je fais a
Absolument.
une,
C'est une.
forcément une
En fait,
incidence.
quand on regarde les textes originels, bon, on n'a pas le temps d'en parler là, mais quand on regarde les textes originels, par exemple dans le bouddhisme relatif au karma, c'est quelque chose d'extrêmement concret, je dirais presque de mathématique, la logique, comme vous dites.
Alors le thème de l'émission, c'était mythe ou réalité. C'est dur de répondre à cette question, non?
Ouais, bon. Bon, évidemment, vous avez compris qu'en ce qui me concerne, je pense que c'est une réalité, mais il ne faut pas croire, hein. Par exemple, même en Occident aujourd'hui, il y a des milliers, des milliers, des milliers de gens qui adhèrent à cette idée de la réincarnation et du karma. Je suis très surpris, par exemple, je vois en conférence publique, beaucoup de gens viennent à ce type de conférence et beaucoup de gens, même qui ont une formation chrétienne à la base, etc., adhèrent à cette idée de la réincarnation et du karma. Il faut savoir, par exemple, juste un petit aparté historique, dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, hein, premier, deuxième, troisième siècle, la plupart des chrétiens adhéraient tout à fait à l'idée de la réincarnation et du karma. Pourquoi? Parce que c'était avant tout des juifs convertis au christianisme. Et dans la tradition juive de l'époque, hein, du temps d'Auguste, du temps du Christ, etc., ben, beaucoup de juifs adhéraient à l'idée de la réincarnation. Et donc, devenus chrétiens, eh bien, c'était une idée qui était logique chez eux. Voilà.
D'accord,
Bon, tel n'a pas été le message de Jésus, on est bien d'accord, mais c'était quelque chose de logique. D'ailleurs, il y a des petits, on n'a pas le temps non plus là d'en parler, mais par exemple, que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a des petits passages qui laissent à réfléchir.
d'accord. Chez les chrétiens, quand même, on imagine qu'on revient après, mais avec le même corps, c'est ça? Parce que c'est pas de la
Ah non,
réincarnation.
ah ben non, non, c'est un
Puisque
peu.
les
Je voulais
morts se
comparer une
réveilleront ou se
analogie.
relèveront, c'est
Bon.
un petit peu ça, non, chez les chrétiens.
L'idée, c'est qu'évidemment, dans l'idée de la réincarnation, bien sûr, il y a l'idée de revenir, donc de revenir, de revivre sur Terre pour une nouvelle vie, pour ce qu'on appelle une nouvelle incarnation, mais dans un autre corps. Par exemple, pour prendre un exemple concret, ben, si aujourd'hui je suis dans le corps d'un homme qui est né en France, de race blanche, etc., je peux très bien revenir dans une prochaine vie, dans le corps d'une femme, en Afrique, etc. Disons, toutes les expériences doivent être vécues, traversées, pour accéder à cet état de sagesse dont je parlais tout à l'heure. Pour prendre une analogie, c'est un peu comme quand vous achetez une voiture, ben, quand votre voiture commence à avoir 100, 120 000, 150 000 km, elle n'avance plus, elle a des problèmes, etc., eh bien, vous allez changer de véhicule pour pouvoir aller travailler, pour pouvoir vous circuler, etc. Ben, c'est un peu pareil. Le corps physique, disons, est un habitacle, un instrument qui est utile pendant une existence. Il faut pas le renier, hein, surtout, hein, c'est un outil qui est important. Donc, on va l'utiliser pendant une vie, pendant une existence. Et puis, le moment venu, ben, on le laisse de côté. il revient, comme on dit dans la tradition, à la poussière, et on se prépare à revenir, puisque nous ne sommes pas encore parfaits, nous devons encore continuer le chemin, eh bien on se prépare à revenir dans un nouveau corps, dans une autre existence, dans un autre pays, etc.
D'accord.
Il y a eu des expériences extrêmement intéressantes, je pense à un psychiatre, s'il y a certains de vos auditeurs qui connaissent, ou ça les intéressera peut-être, un grand psychiatre américain qui s'appelait Stevenson, il était en Virginie aux États-Unis, qui a fait énormément de recherches sur des souvenirs spontanés qu'avaient des enfants, souvent avant l'âge de 7 ans, qui racontaient des histoires de vie qu'ils avaient vécues en Orient, en Afrique, etc., avec des détails très précis. Et il a fait des recherches extrêmement poussées, très scientifiques, pour savoir si ce qu'il racontait avait une base de vérité. Et c'est extrêmement intéressant.
Oui, on le voit, hein. Il y a pas mal de documentaires sur le sujet, notamment ce jeune enfant qui était pilote et... avec le nom de l'avion, le nom de ses collègues, la villa, la
oui,
maison.
Oui, il y a des choses hyper troublantes, très très troublantes. Ben, vous connaissez par exemple, bon ça c'est plus connu, mais le phénomène des tulku, ce qu'on appelle les tulku dans le bouddhisme, c'est-à-dire ces maîtres spirituels qui annoncent ou qui sont censés être la réincarnation d'un ancien maître spirituel. Le plus connu des tulku étant le Dalai Lama, et même le Panchen Lama, qui sont reconnus comme tels, comme étant la réincarnation soit de l'ancien Dalai Lama, soit du Panchen Lama. Maintenant,
d'accord,
c'est un peu plus connu en Occident.
Oui, puis il reconnaît des objets personnels, c'est ça qu'il avait dans sa vie antérieure. Oui,
il est censé reconnaître certains objets quand il est enfant, etc. Voilà. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'expériences à travers le monde qui ont été menées dans ce domaine. Et par exemple, des enfants qui se mettent à parler des langues étrangères ou qui par exemple sont des génies dans le domaine soit de la musique, soit des mathématiques, etc., qui posent question. La génétique, disons que la génétique, l'éducation, l'environnement familial, social n'expliquent pas tout. Et il y a un aspect dans ce phénomène de la réincarnation qui est extrêmement, extrêmement troublant. Voilà.
Chez l'URSI, l'Université Rose-Croix Internationale, ou dans l'ordre de la Rose-Croix, vous enseignez, j'imagine, il y a une partie liée au karma, à la réincarnation.
Oui, alors
pour ceux qui veulent développer.
Dans l'ordre de la Rose-Croix, il y a plusieurs degrés d'enseignement. Il y a 12 degrés traditionnels. En particulier dans le 8e degré, plus spécifiquement, on parle de façon beaucoup plus approfondie de ce principe de la réincarnation et de la loi du karma qui lui est liée. Donc il y a pas mal de fascicules qui expliquent comment ce principe est envisagé. Ce n'est pas un principe d'ailleurs qui appartient aux rosicruciens, hein, c'est un principe universel, mais on l'explique avec les mots de l'Occident. Bien sûr, on n'utilise pas les termes sanscrits tels qu'ils l'utilisent en Inde. Et on explique comment ces principes peuvent être liés à notre vie, quotidienne. Alors, ce qu'il faut bien comprendre quand même pour vos auditeurs aussi, c'est que faut bien savoir que toutes les épreuves, toutes les difficultés, tous les problèmes que l'on peut avoir dans une existence, hein, que ce soit des problèmes de santé, problèmes familiaux, matériels, etc., ne sont pas nécessairement dus à ce principe du karma. Dans la mesure où nous sommes incarnés, si je puis dire, dans la mesure où nous sommes dans une vie telle que la nôtre, eh bien, nous devons rencontrer des difficultés. Quand on regarde l'histoire, même les plus grands initiés, même les plus grands maîtres spirituels ont rencontré des difficultés, parce que tel est le lot de l'existence. Donc, tout n'est pas le résultat du karma.
Heureusement. Sinon, ça serait trop facile.
Heureusement.
Je conseille à nos auditeurs d'aller voir le site www.rose-croix.org. Ils pourront se renseigner plus facilement sur les formations, les enseignements, hein, parce que c'est une série.
Sur le site, sur le site rosecroix.org, ils auront non seulement bien sûr d'où vient l'ordre de la Rose-Croix, son histoire, etc., mais comment sont structurés les degrés, quels sont les thèmes qui sont évoqués dans les différents degrés de l'ordre, du mouvement. Il y a beaucoup, alors il faut savoir que c'est pas simplement quelque chose de théorique, c'est-à-dire que dans la mesure où c'est une voie spirituelle, il y a beaucoup d'exercices pratiques. Par exemple, ceux qui ont une démarche qui m'écoutent verront qu'il y a beaucoup d'exercices liés, par exemple, à la méditation, beaucoup d'exercices liés à ce qu'on appelle la visualisation, c'est-à-dire la création mentale, l'utilisation de la pensée positive, de la pensée créatrice, beaucoup d'exercices liés à la concentration, l'harmonisation spirituelle, par exemple l'utilisation des sons vocaux, ce que dans les traditions orientales on appelle les mantras. Donc il y a beaucoup il y a un côté très pratique également, hein, pas simplement théorique. Donc, c'est ce qui fait d'ailleurs le plus d'une voie spirituelle telle que la nôtre, c'est à la fois le volet théorique, mais aussi le volet extrêmement pratique.
Bien, bah écoutez, Philippe Deschamps, je vous remercie. Bon karma.
Merci à vous.
si vous
aussi.
On va essayer de faire notre possible pour que ça dure longtemps. À très bientôt et voilà. Bonne journée.